Nous avions dit que la Bible était parcourue par un grand thème qui est celui de l'adoration et de la prière. La prière sous toutes ses formes. Quand je dis prière, je n'exclus pas les actions de grâce, n'est-ce pas? Sous toutes ses formes. Nous les verrons d'ailleurs dans le détail, ces formes. Il y a donc des invitations à la prière. Nous ne pourrons pas les relever toutes, bien sûr, mais quelques-unes simplement, et nous irons tout de suite au livre des psaumes. Il y a des choses souvent erronées qui se propagent, qui se disent, et j'ai été assez étonné de lire dans je ne sais plus quel petit ouvrage que autrefois, avant que l'avenue de Jésus-Christ, on ne priait pas. Alors là, les bras m'en sont tombés. Pas un auteur chrétien qui peut nous dire une pareille sottise. Hein? On ne priait pas, on ne savait pas prier. Mais je vous assure, je voudrais bien que nous sachions prier autant que le psalmiste. Hein? Dans les 150 psaumes du recueil. Eh bien, nous avons d'abord le psaume 5. Le psaume 5, verset 2. Psaume 5, verset 2. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Oh, c'est très beau ça, c'est magnifique, on sent l'élan d'une âme vers Dieu. Au psaume 6 et verset 10, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, mais enfin retenons cela. L'Éternel exauce mes supplications, il accueille ma prière. Au psaume de 17, verset 1. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faites avec des lèvres sans tromperie. Vous savez, déjà, on parcourrait, n'est-ce pas, tous les psaumes comme ça et tout ce qui a trait comme ceci à, vraiment à la prière, on aurait déjà une information très, très importante et presque complète sur tous les aspects de la prière. Écoute la droiture, c'est-à-dire que là, le psalmiste est conscient que Dieu ne peut écouter qu'un homme qui est droit, un homme qui est... disons, déformé, tordu, qui est tordu, il y a un mot hébreu qui signifie cela, exactement, hein, tordu. Eh bien, l'Éternel ne peut pas l'écouter. Alors, nous avons aussi le mot de cri, à mes cris. Nous ferons justice de cette expression qui revient souvent dans l'Ancien Testament, hein, et même dans le Nouveau, un peu. Crier à l'Éternel. Nous verrons pourquoi cela. Et puis, après le psaume 39, verset 13, psaume 39, verset 13, « Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. » Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. 42.9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Nous verrons aussi pourquoi à certains moments il semble que Dieu n'entende pas ou tout au moins ne veuille pas répondre, cela nous le verrons. Mais c'est très beau, le jour l'Éternel m'accordait sa grâce, il n'était tout de même pas sans grâce de l'Éternel, n'est-ce pas? Et la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Vous savez que le soir et la nuit sont des moments de la journée de 24 heures, du jour quoi. Du jour de 24 heures particulièrement favorable à la prière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier le jour, n'est-ce pas? Ce sont des moments particulièrement favorables. Quelqu'un a dit, et ce n'est pas sans justesse, que les heures du soir qu'on appelle plus particulièrement les veilles. Les veilles. Eh bien, les heures du soir, de la fin de la journée, sont le dimanche de la journée. La partie consacrée à Dieu, le dimanche de la journée. Alors c'est pourquoi, enfin c'est une des raisons que j'ai, notamment une des raisons, il y en a beaucoup, d'autres, de ne pas regarder, de ne pas avoir de télévision. Ah ben je vous dis ça pour moi, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons 63, le psaume 63, verset 3. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ça c'est merveilleux et c'est un des traits de la prière. La prière, pas seulement des paroles que l'on envoie comme ça dans l'air, n'est-ce pas, en y mettant, je veux bien sûr, son cœur pour que ça monte plus haut que la terre et que ça atteigne le trône de Dieu. Mais il y a dans la prière toujours on pourrait dire un climat spirituel d'adoration, c'est-à-dire que dans le cœur il y a toujours des dispositions d'adoration pour la prière, même la prière de demande dont nous allons parler. Et ça, c'est très beau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Voyez que le psalmiste, c'est-à-dire l'homme de l'Ancien Testament, l'homme pieux de l'Ancien Testament, savait très bien ce qu'était en somme le tissu spirituel pour l'homme. Il savait très bien que on pouvait parler de contempler, de voir quelque chose que les yeux ne voient pas. Ah, voyez-vous, il savait que la contemplation était une vue. C'est merveilleux, mais nous avons énormément à apprendre de l'Ancien Testament, chers amis, énormément. On pourrait presque dire, je l'ai dit quelquefois ici, qu'il est à regretter que nous n'ayons pas été des juifs. Évidemment, ce n'était pas possible que tout le monde soit juif, n'est-ce pas? Mais efforçons-nous d'être des Israélites de Dieu, Israël de Dieu. Et ne négligeons rien de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Quand on entend quelquefois dire des énormités, l'Ancien Testament c'est pas pour nous. Oh, mes amis, mais c'est une offense à Dieu, ça! C'est une offense! Ancien Testament c'est pas pour nous, on n'y comprend rien dans la Bible. Mais enfin tout de même, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Je voudrais bien que tous les enfants de Dieu puissent le dire avec vérité, je te contemple. Nous avons parlé ici de la contemplation de Jésus-Christ, la contemplation. Et puis, nous avons le psaume 66, versets 19 et 20. 66, verset 19. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière, béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Voyez-vous que Dieu n'est pas toujours loin, ou toujours sourd aux prières, n'est-ce pas? Et qu'il y a des moments, justement, où il exauce très vite, et d'une façon magnifique et parfaite. Alors il faudrait que tous les moments soient comme cela. Tous les moments de l'existence. Et s'ils ne sont pas tous, il y a des raisons. Il ne faut pas avoir peur de cela, mais il y a des raisons. En tout cas, il y a des moments où l'exaucement est magnifique, vous le voyez, n'est-ce pas? Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Et puis le psaume, j'en passe beaucoup, vous savez, le psaume 90, verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Vous savez, Moïse était un homme d'un grand savoir aussi que Salomon a reçu dans sa sagesse des connaissances très étendues dans bien des domaines, des domaines évidemment de la vie, de la biologie, de la zoologie, il parlait sur les plantes, les animaux, mais Moïse, lui, a surtout parlé sur les éternités, on peut dire, les éternités, il a vu l'étendue des temps. Il a vu l'étendue des temps. Il a aperçu dans le lointain le Seigneur Jésus. Et dans ce qui est en arrière, le Seigneur lui a donné de découvrir la création. Car pauvres et misérables sont les théologiens qui discutent sur la création. C'est abominable, absolument abominable que leurs discussions et leurs raisonnements d'hommes incrédule sur la création et sur les découpes qu'ils font, qu'ils opèrent dans les récits de la création. Mais Moïse a eu la vision, il a écrit sur une vision, il n'a pas écrit sur des documents épars qu'il aurait découverts, il a écrit sur une vision. Dieu lui a donné, sur l'étendue des temps en arrière, une vue, il a vu cela. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, il le sait, il l'a vu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Il n'avait pas besoin d'avoir fait, lui, de hautes études de mathématiques pour savoir cela et il pouvait le professer. Vous voyez comme la prière est susceptible d'une envolée au-delà du cadre étroit de notre existence sur la terre, une envolée au-dessus des temps, au-dessus des circonstances présentes. 119-58, alors le psaume 119, qui est un psaume, vous le savez, alphabétique, on l'appelle alphabétique parce que il est établi au moyen de l'alphabet hébreu, 22 lettres et 8 vers ou 8 versets pour ces 22 lettres, ce qui fait 176 versets. Et chaque groupe des 8 versets, dans chaque groupe, les 8 versets commencent par la lettre de l'alphabet qui correspond au groupe. Alors, 119-58. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. C'est merveilleux ce langage tenu, n'est-ce pas, à Dieu. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Le psaume 102 que j'ai oublié, verset 18. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Misérable n'a pas le même sens, c'est une traduction simplement, ça en français. Ça n'a pas le sens qu'on prête à ce mot. Maintenant, c'est celui et qui, ça peut être le misérable, ça peut être un homme à qui rien ne manque. C'est tout simplement celui qui sait que l'homme est misérable, que l'homme a une misère avec lui depuis la chute, n'est-ce pas ? Il est plongé dans une véritable misère intérieure, la misère de la mort, n'est-ce pas ? Alors c'est ça le misérable, ce n'est pas celui qui se traîne sur les chemins en mendiant son pain, n'est-ce pas ? Il est attentif à la prière du misérable, parce que la prière de l'homme hautain, évidemment, Dieu ne l'écoute pas. Et puis, nous avons Ésaïe 59, hein. Ésaïe 59, verset 15, peut-être l'ai-je déjà cité cela. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit, d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. C'est une invitation, cela, vous voyez, puissante à la prière. Comment ? Mais il n'y a plus personne, je n'entends plus personne intercéder. Qu'est-ce que cela veut dire ? La terre est muette, est devenue muette. Il n'y a plus personne qui prie pour les autres. Plus personne, il n'y a plus de cœur sensible, il n'y a plus de cœur dans l'affliction. L'invocation dont il est souvent fait mention dans le livre des psaumes et ailleurs, l'invocation du nom de l'Éternel tient aussi une grande place dans la piété israélite et doit tenir une place dans la nôtre. L'invocation du nom de l'Éternel. Pourquoi le nom de l'Éternel ? Eh bien, parce que nous ne pouvons pas voir l'Éternel. Nous le verrons quand nous serons dans le corps nouveau, pas avant. Pas même comme les esprits parvenus à la perfection qui attendent la résurrection, n'est-ce pas ? Ils ne voient pas encore Dieu. Il n'est pas dit qu'ils voient Dieu. Ils voient Christ, ils sont avec Christ. Mais ils ne voient pas le Père. Et ils ne verront le Père qu'aux noces de l'agneau. C'est là la grande confession de Jésus, de ses frères, de ses rachetés, de ses disciples, aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est cela. C'est la grande et première entrevue avec le Dieu Très-Haut. Car le Dieu vivant ne peut admettre en sa présence que l'homme qui, à travers la rédemption est à retrouver le plan créateur, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Corps nouveau, alors tout est purifié, tout est saint, tout est magnifique, tout est prêt pour l'éternité, et alors, n'est-ce pas, ils verront Dieu, ils le verront face à face. Et Christ, n'est-ce pas, présentera toute son épouse, elle est appelée, l'ensemble, la communauté est appelée l'épouse de l'agneau, l'épouse de l'agneau sera là, présentée à Dieu le Père. Quel festin ! Moi je garde l'idée d'un festin, il n'y a pas autre chose, pas la peine de philosopher, n'est-ce pas, et de faire ou de la théologie ou de la métaphysique, la théologie fiction, n'est-ce pas ? Il faut simplement garder les images qui nous sont données, puis nous ne savons pas jusqu'à quel point elles sont images ou n'approchent pas même, n'est-ce pas, la réalité par bien des côtés, voyez, bah, alors, non, ceux qui discutent et qui veulent spiritualiser, n'est-ce pas, dans les livres ou autrement, n'écoutez pas ça, gardez les images, je crois que le mot est trop faible. Mais gardons les moyens, si vous voulez, d'expression de la Bible. Et parlons de ces moyens-là, avec ces moyens-là. Là, nous sommes sûrs d'être dans la vérité. Hein? Et puis, pour nos esprits, ces moyens d'expression nous ont été donnés pour nous, pour notre cœur, pour notre esprit d'homme, n'est-ce pas ? Eh bien, notre esprit d'homme se satisfait de ces moyens-là. Il faut, par conséquent, les respecter et les garder intégralement. Alors, moi, je vois l'idée d'un grand festin. Nous gardons l'idée d'un festin parce que Jésus-Christ nous a donné cela. Il nous a dit, plusieurs seront à table, il en viendra du nord, du midi, de l'est, de l'ouest, ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, seront à table, et nous aussi, nous voulons être à table, n'est-ce pas ? Et nous avons reçu déjà un petit carton d'invitation. Alors, invoquer donc le nom de l'Éternel, invoquer... qu'est-ce que c'est qu'invoquer le nom de l'Éternel ? Eh bien, invoquer le nom de l'Éternel, c'est d'abord adorer. Adorer. Il n'y a pas d'invocation sans adoration. Il faut donc, n'est-ce pas, un cœur disposé à l'adoration pour pouvoir vraiment invoquer. Et puis, l'invocation par elle-même, c'est de reconnaître Dieu pour maître et de l'appeler à son secours. Voilà tout ce qu'il y a dans l'invocation, pas invocation, parce qu'il faut tout de même savoir le sens des mots qu'on emploie. C'est un mot connu, mais dans le fond, on demanderait à beaucoup quel est le sens d'invoquer, je serais bien hésitant. Alors, il faut savoir, Il faut tout de même avoir, n'est-ce pas, un petit peu le sens des mots principaux qu'on emploie. Alors, je répète, n'est-ce pas, dans un sentiment, donc, d'adoration, c'est d'abord reconnaître Dieu pour maître. Alors, il y a cette crainte filiale, là, dans cette reconnaissance de Dieu pour maître, parce qu'on a le sentiment de l'énorme différence, énorme différence entre le Dieu très grand, le Dieu très haut, le Dieu très puissant, et puis la pauvre petite, pauvre petit ver de terre que nous sommes, n'est-ce pas? Il y a une grande différence. Et cela, on le faisait beaucoup. Et cette invocation, principalement, se faisait devant l'arche, qui était dans le tabernacle, ça. Et l'arche signifie la présence de Dieu au milieu du peuple. Alors, devant l'arche était invoqué le nom de l'Éternel. Voyons par exemple 1 Chronique, chapitre 13 et verset 6. Et David avec tout Israël monta à Baala, à Kirjat-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Il y avait, vous savez, le propitiatoire, n'est-ce pas, sur ce coffret qui s'appelait l'arche, et dans lequel étaient les tables de la loi, et alors il y avait là les deux chérubins qui se rejoignaient par le bout de leurs ailes, et c'est de là que, d'entre les chérubins, que provenait la voix qui s'adressait à Moïse. Alors, là, était invoqué le nom de l'Éternel. Chapitre 18, verset 8, toujours dans 1 Chronique, 18, verset 8. C'est 16. Verset 8, c'est pas 18, c'est 16. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Chers amis, encadrez ça, bien vite, et ne perdez jamais ce passage-là. Vous voyez, moi je l'avais perdu tout à l'heure, parce que je croyais qu'il était dans le verset 10, dans le chapitre 18. Eh bien c'est dommage de perdre cela, hein, il ne faut pas le perdre. C'est magnifique. Alors nous pouvons dire ceci, n'est-ce pas, c'est que si l'israélite, dans sa piété, l'israélite, vraiment qui était israélite d'appartenance et de cœur, eh bien, si l'israélite pouvait écrire cela, recevoir cette invitation de Dieu, n'est-ce pas, recevoir une telle invitation de Dieu, y acquiescer, n'est-ce pas, eh bien, à plus forte raison, nous qui sommes dans le temps de la grâce. Ah, n'est-ce pas? On a souvent, et on nous a un peu éduqués comme cela, souvent mal éduqués d'ailleurs, mal éduqués. Bon, mais enfin, ça c'est une autre affaire. On nous a éduqués en nous disant, vous savez, vous êtes dans le temps de la grâce, la dispensation de la grâce, de l'Église, vous êtes par conséquent très dégagés de tout ce qui était consigne, au niveau terrestre, au niveau matériel pour le peuple d'Israël, vous êtes très dégagé de cela. L'obéissance d'Israël était très terre à terre, très matérielle, mais vous êtes spirituel, des hommes spirituels, et par conséquent vous devez avoir une activité spirituelle très haute et très grande. C'est assez vrai, mais dire que l'on est dégagé de tout ce qui intéressait le peuple d'Éternel, le peuple de l'Éternel sous les anciennes dispensations, sous la dispensation de la loi, ça c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une contre-vérité. Si Éternel devait faire cela, s'il devait louer l'Éternel, invoquer son nom, chanter en son honneur, glorifier le saint nom, et avoir des cœurs qui cherchent l'Éternel en se réjouissant, n'est-ce pas, Cherchez continuellement sa face à plus forte raison. Nous qui sommes dans le temps de la grâce, à plus forte raison. Alors ça, nous pouvons directement le prendre du temps de la loi, n'est-ce pas? Nous pouvons le prendre. Ça, c'est pas lié par le temps de la loi et par les circonstances de la loi de Moïse, n'est-ce pas? Mais c'est magnifique. Alors voilà une grande invitation qui nous est faite par Dieu pour une prière. Et voyez, n'est-ce pas, ce qu'est déjà cette prière. Et puis dans 2 Chroniques 7,14, nous arrivons là, alors, à l'apparition de Dieu à Salomon, 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est-à-dire, je guérirai, si vous voulez, et je rétablirai tout ce que je lui ai donné. Le pays, c'était ce qu'avait donné l'Éternel au peuple d'Israël. Alors notre pays, c'est ce qu'il nous a donné. Parce qu'il nous a donné le royaume de Dieu, eh bien nous sommes nous déjà de cœur dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est déjà dans notre cœur. Alors, tout cela doit être net, doit être en bon état. Il y avait une différence marquée entre Israël et les autres nations. Et cette différence est le psaume 79 qui l'indique, surtout le psaume 79, verset 6. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Voyez-vous la différence entre Israël et les autres royaumes, les autres nations, c'était que les autres n'invoquaient pas le nom de l'Éternel. Elles n'invoquaient pas, elles ne voulaient pas. Elles étaient non seulement dans l'incrédulité, mais il arrivait qu'elles étaient obligées de reconnaître quand Israël était un peuple qui témoignait par sa sagesse, comme dit le Deutéronome, par sa sagesse, n'est-ce pas? Il témoignait qu'il était le peuple de Dieu, rien que par sa sagesse. On dira que ce peuple est sage, ce peuple est sage. Alors, les autres nations, n'est-ce pas, reconnaissaient que le Dieu d'Israël était le Dieu véritable, était l'Éternel qui enrichit, qui bénit. Eh bien, cependant, elles n'invoquaient pas le nom de l'Éternel. Elles ne venaient pas à cette invocation. Vous voyez, n'est-ce pas, que c'est bien une grâce de Dieu si nous invoquons l'Éternel, parce que notre nature y est réfractaire. Elle y est réfractaire. Et c'est une grâce de l'Éternel si nous pouvons invoquer le nom de l'Éternel, et nous l'invoquons, nous, en nous servant du nom de Jésus. L'Écriture nous montre aussi que aimer l'Éternel, ben, c'est pas une chose qu'on doit dire simplement en protestation verbale. Ah, Seigneur, comme je t'aime. C'est très beau de dire ça. Très beau de dire ça, n'est-ce pas? Très, très beau. Mais ça suffit pas. C'est très peu de choses. C'est beau, mais c'est peu de choses. Ben, il faut aimer véritablement. Et dans le peuple d'Israël, la révélation qui lui avait été donnée, n'est-ce pas, était très précise à ce sujet. C'est là, d'ailleurs, que nous devons aller chercher, figurez-vous, surtout, ce en quoi consiste aimer. Nous avons peu de choses dans le Nouveau Testament. La première épître de Jean nous dira que aimer l'Éternel, n'est-ce pas, consiste à observer ses commandements. Et aimer l'Éternel, nous dira le Seigneur, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Mais l'Ancien Testament en a davantage. Et on sent que dans le Nouveau Testament, ben, Dieu n'a pas voulu revenir sur ce qu'il avait déjà révélé auparavant à ce sujet. Donc vous voyez qu'il faut que nous allions à l'Ancien Testament. Alors prenons le psaume 116, verset 1. Je vous fais beaucoup tourner vos pages, mais vous savez, il faut s'instruire avec la Bible, n'est-ce pas? Et c'est bien en consultant notre livre, le livre de Dieu, que nous pouvons nous instruire. Et là, nous sommes sûrs de ne pas dévier. Nous sommes sûrs de ne pas nous tromper, n'est-ce pas, avec le livre. Psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi, j'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Comme tout ça, n'est-ce pas, est magnifique, c'est une envolée spirituelle, cela, n'est-ce pas, vers le Dieu vivant. Puissions-nous vivre toujours avec de pareils élans dans notre cœur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, et celui qui aime l'Éternel invoque le nom de l'Éternel. Ésaïe 26, 13. L'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Est-ce que nous disions à l'instant, c'est grâce à lui, c'est par la grâce qu'il nous fait que nous pouvons invoquer son nom. C'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Car l'amour consiste à invoquer le nom de l'Éternel. Et il nous est montré que Jérusalem est la ville sur laquelle le nom de l'Éternel est invoqué. Ah, cela, n'est-ce pas, en raison des dispositions que Dieu avait prises concernant cette ville, la ville des Jébusiens, au début prise par David. Mais Jérémie 25, 29 nous dit, Jérémie 25, 29, car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal et vous, vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. L'Éternel annonce le jugement, mais Jérusalem reste la ville sur laquelle le nom de l'Éternel est invoqué. Alors nous sommes un peuple sans capitale sur la terre, notre cité est dans les cieux, et notre capitale c'est la Jérusalem, d'en haut, mais nous invoquons cependant le nom de l'Éternel sur, avec le nom de Jésus, et de Jésus qui, à Jérusalem précisément, dans cette ville, a souffert la mort, pour nous, et c'est là que la paix, comme disent les psaumes, c'est là que la paix a été trouvée, c'est là que la paix, c'est-à-dire la vie éternelle, a été donnée aux hommes par le sacrifice du Seigneur Jésus. Théophanie, oui, chapitre 3, verset 9. Je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous les oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de louange, de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Je crois que l'Éternel le fait, de ramener les captifs sous nos yeux. Eh bien, dans le Nouveau Testament, il y a évidemment des invitations. Celles-là, je ne vais pas les lire maintenant, car nous les trouverons dans la suite de cette étude, des invitations à la prière. Mais reconnaissons déjà ceci, n'est-ce pas, voyez que dans toute la Bible, dans toute l'étendue de la révélation, n'est-ce pas, il y a une chose très nette, n'est-ce pas, invitation à croire. Ça, croire, n'est-ce pas, c'est essentiel, c'est capital, c'est primordial. Puis une invitation à adorer, une invitation à prier et une invitation à aimer. Eh bien, si nous faisons ces quatre choses, n'est-ce pas, nous les faisons, elles s'imbriquent les unes dans les autres, bien sûr, mais si nous les faisons, ces quatre choses, Mes amis, nous pouvons dire, nous vivons et nous sommes au Seigneur. Que son nom soit béni.